Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visst mörkt och kallt.
Bonjour. Vous allez entendre l'émission Invisible, la seule émission de télévision uniquement diffusée par la radio. Installez-vous devant votre fenêtre, allumez votre poste de télévision et coupez le son, feuilletez un livre illustré, courez à la première exposition venue de peinture ou de photographie, ou, si vous êtes en voiture ou en train, observez attentivement le paysage. Vous avez les images, nous apportons le son.
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst.
Cette émission est réalisée et présentée par Alain Brouche.
Det ena eller andra och levat livet tills jag krossades en dag. Det börjar med att du bedrog mig med en annan, en som du sa var mycket finare än jag.
Pour commencer cette émission, miroir d'astrologie d'après les textes de Max Jacob et Claude Valence, publiés chez Gallimard en 1949.
Le signe astrologique du Verseau du 21 janvier au 21 février. Domicile de Saturne et d'Uranus, triplicité d'air. Les dames du Verseau. On ne sait pas ce qu'elles pensent, mais soyez sûres qu'elles ne veulent que du bien. À quoi pensez-vous donc, madame? Vous me regardez avec une telle attention. J'étais en train de me demander ce que je pourrais faire comme entremets qui vous fit plaisir. Je crois me souvenir que vous aimez la crème au chocolat. Je vais vous en faire une de mon invention. C'est très original, vous verrez. Les dames du Verseau sont bonnes. Elles sont mères, même avec leur mari. Ne me prends surtout pas froid, surtout. Oh, j'ai si peur pour lui. Leur bonté est même quelquefois gênante. Tu préférerais peut-être qu'on ouvre la fenêtre. Je l'avais fermée pour t'éviter un courant d'air, mais non, ça va comme ça. Mais dis-le-moi, tu sais, ça m'est égal. Elle ouvre la fenêtre. J'ai peut-être eu tort d'ouvrir la fenêtre. Mais non, laisse ça comme ça, maintenant. Mais non, tu dis ça pour me faire plaisir, je vais la fermer, etc. Leur affection va jusqu'à la jalousie. Jules est sorti. Mon Dieu, où est-il allé? Tu ne peux pas supporter de le savoir dehors sans moi. Il faut que j'aie tout mon monde autour de moi ou bien je meurs d'angoisse. C'est une dame très distinguée, très exquise. Elle a des goûts artistiques bien précis. Elle aime ceci, n'aime pas cela. Elle s'en cache pour ne choquer personne. Et ne pas faire de peine, comme elle dit. Mais ses goûts sont fermes. On croirait, n'est-ce pas, qu'une personne si aristocratique est détestée du peuple? Eh bien, pas du tout. Quand les femmes seront députées ou sénateurs, si je me présente, je serai élue, dit-elle. Et elle a raison. Elle est très aimée, d'abord parce qu'elle aime à être aimée, et recherche la sympathie, sans jamais renoncer à ses opinions par bassesse. Elle est aimée parce qu'elle a du caractère. Les gens aiment ça, le caractère. Et puis, elle est vraiment bonne. Elle est bonne sans étiquette philanthropique. Elle est bonne avec amour et avec tact. Elle est aimée parce qu'elle amuse sans drôlerie non respectueuse. Elle amuse parce qu'elle a toujours une recette imprévue, une manière à elle d'accomplir un point de broderie, de raccommoder un objet cassé, une solution pour une affaire de cœur ou d'argent ou de justice. Elle est aimée parce qu'elle est forte et gaillarde derrière ses silences prolongés et aussi parce qu'elle est moderne. Elle s'intéresse à l'aviation, à la TSF, à la publicité. Enfin, parce qu'elle est gaie quand il le faut et ne déteste ni la chansonnette ni les petites fêtes de famille. Quand elle est triste, c'est d'une tristesse sans noirceur funèbre. Elles ne sont d'ailleurs pas sans défaut, mères excellentes. Elles ont des préférences d'une injustice flagrante. Épouses fidèles, elles sont jalouses. Sans scène dramatique, certes, mais avec des larmes silencieuses, des pâleurs significatives. Leur passion peuvent les mener à la violence. Elles sont entières dans leurs sentiments. J'en connais une qui, ayant épousé par amour un homme faible et menteur, a fini par le battre. Jamais on n'aurait pu croire que cette dame à peau blanche, à vêtements de tulle, à bandeaux à cajou vaporeux, on s'habillait ainsi alors, pourrait avoir une telle attitude. Elle battait son mari par amour et parce que son inertie l'exaspérait. D'ailleurs, elle l'a soignée dans une maladie avec un tel dévouement qu'elle en est tombée malade elle-même. Elle l'a sauvée. C'est elle qui est morte, morte de dévouement et d'amour. Les dames du deuxième décan du Verseau. Louise Vénia était une belle fille, violente et moqueuse, toujours prête à se battre dans la cour de récréation à l'école, enthousiaste pour les nouveaux jeux, féroce pour les hypocrites et les cafards. On l'aimait à cause de son air de santé, de ses belles dents, de sa force, de son ardeur au football et de sa franche amitié. En classe, elle était rêveuse, pensait à des voyages, à la guerre, aux armes, aux grands espaces. Ce n'était pas l'étude qui lui déplut, loin de là, mais elle ne s'y mettait que si le professeur lui était sympathique. « Louise Vénia, c'est dommage que vous ne travailliez pas davantage, mademoiselle, puisque ce que vous me dites est dans les livres, je pourrais l'y trouver quand je voudrais. » M'a jamais dit que vous manquiez d'intelligence, Louise, mais n'avez-vous pas honte de vous laisser dépasser par des camarades moins doués que vous ? Cet appel à la fierté eut d'excellents résultats. Elle voulut être la première, et ce mobile fut celui de toute sa vie, ce qui l'a empêché de devenir une vraie savante. Ça a été sa dispersion. Louise Vénia est fantasque. Elle a pensé à la musique, à la peinture. Elle avait des grands-parents artistes. Elle s'est décidée pour les sciences. À 16 ans, elle a déclaré qu'elle étudierait la mécanique à cause de la beauté des machines qu'elle déclarait souples, majestueuses et puissantes. À 18 ans, elle se passionna pour l'électricité, ce qui l'a empêchée de devenir un professeur avec tous les titres nécessaires qu'elle aurait facilement conquis. C'est son amour de la famille et de l'humanité. Je veux être riche, non pas pour moi, car je suis austère dans ma vie comme toutes les sportives, mais pour rendre heureux mon mari, mes enfants, que j'adorerais, et mes parents, que j'aime tout en les discutant. Or, la science n'enrichit pas. On l'a placée dans une fabrique de meubles du Faubourg Saint-Antoine à Paris. On l'a placée dans une fabrique de meubles du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Elle a été de suite choquée. On fabriquait au mille des coiffeuses Louis XV, Louis XVI, des commodes Louis XV, des fauteuils Louis Philippe. Je suis pour la propreté morale. Je ne puis pas vivre avec ceux qui n'en ont pas. Elle fut plus souvent avec les étudiants du quartier latin qu'à l'atelier et au bureau. « Je voudrais vivre avec des pauvres, avec des clochards, avec des marins, avec des mécaniciens, avec des campagnards. Je m'adapterai à n'importe quel milieu. Je voudrais m'élever, avoir un nom. C'est peut-être ça l'orgueil ?» Elle fut choquée par la vie des étudiants. Elle avait horreur du dancing et du café la nuit. Elle eut une grande passion pour un étudiant en chimie. Elle ne l'avoua pas par fierté et personne ne s'en aperçut. L'amour est une faiblesse indigne d'un être moral, dit-elle. Au contraire des femmes amoureuses, elle traitait en bourreau celui qu'elle aimait, l'interrompait, lui poussait des cols et, devant ses théories, faisait celle qui ne comprend pas. Ce qui lui plaisait dans les réunions des étudiants, c'était la franchise, la camaraderie. Cette franchise ne l'empêcha jamais d'être habile quand elle eut trouvé sa voie. Elle a épousé un des directeurs de la fabrique de meubles où on l'avait placée. Il la consulte et il dit qu'elle lui porte bonheur. « Jamais je ne suis roulée, ma femme se fait toujours payer. J'aurais voulu avoir un nom dans les sciences, c'est mon fils qui l'aura. » C'est une admirable mère de famille. Elle a une grande vie intérieure et lâche des mots profonds comme celui-ci par exemple. L'avenir est au bois et non au fer. Le drame de la vie de Louise Vénia, c'est la continuelle désillusion. Elle est optimiste, entêtée. Elle croit des saints ou des génies tous les gens qu'elle fréquente ou qu'elle aborde. Chaque fois qu'il montre une faiblesse humaine, elle est chagrinée, déçue. Son amour si réel de l'humanité reste un amour dépourvu d'observation naturelle. Elle part de l'idéal au lieu de partir de la réalité. Et quand la réalité la cogne, elle lui fait mal. Le mariage et la maternité l'ont empêchée d'être une ratée de tout sous prétexte d'inspiration. Son fils est officier.
Su buena gente, su dignidad. divinidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero,
aujourd'hui, le cabinet de curiosité est consacré à une affaire qui eut dans notre pays un retentissement considérable. Nous en avons tous entendu parler à l'école. Cette affaire a fait de notre pays le modèle de tolérance qu'il est devenu. C'est une petite fille qui vous la raconte.
Ça part d'un jeune homme qui s'appelle, on va dire, Robert. Et donc, il fête son anniversaire. Et avec un ami. Et du coup, à un moment, il descend dans le grenier. Et après, la famille, elle descend pour aller le voir. Parce que ça fait longtemps qu'il est absenté. Et du coup, il le retrouve mort. Et normalement, il le retrouve mort, pendu. Donc, il doit être suicidé. Mais à l'époque, toutes les familles, elles... Tous ceux qui se suicidaient, souvent on montrait pas qu'ils se suicidaient, sinon on les enterrait. Et on les enterrait pas dans les cimetières. Et ils étaient mal considérés. Et du coup, ils l'ont descendu. Mais ils auraient pas dû parce que du coup on les soupçonne de les avoir tués et de l'avoir tué. Et donc c'est une famille de protestants et catholiques. La servante, elle est catholique et le père est protestant et le fils est catholique aussi. Et à l'époque, les protestants, ils étaient mal considérés. Et du coup, quand la police est arrivée pour inspecter, quand elle a su que le père était protestant, il a tout de suite condamné le père. Et donc le père a été accusé d'avoir étranglé son fils. Et un philosophe, lui, il était contre quelques années plus tard. Parce que le père avait 68 ans et c'était vieux à l'époque. Il était maigre, il n'avait pas de force. Et son fils, il était costaud et fort. Et du coup, c'était impossible. Et du coup, le père a été condamné à être mis sur une roue et à taper avec un fouet jusqu'à ce qu'il souffre et après on le tuait.
Et là, ça s'appelle comment cette histoire ?
L'affaire Dreyfus.
Avant, tu as parlé de quelqu'un qui avait écrit dessus, non. Qui s'est battu. Si,
non. Mais j'ai...
Si.
Voltaire ?
Oui, Voltaire, oui.
Non, mais c'est pas ça.
Attends, juste une chose. Tu penses pas que tu confonds avec l'affaire Callas ?
Ah, mais si, c'est... Mais c'est qui Dreyfus, alors ? C'est qui Dreyfus ?
Ah bon ?
C'est qui Dreyfus ?
Ben, Dreyfus, c'est un autre.
Ah bon, bah, Callas, alors.
Thank you.
Et c'est maintenant l'heure de retrouver Marc Mercier et le bulletin d'écoute d'Armand Robin.
2 et 3 janvier 1961, bulletin numéro 1. La situation politique internationale d'après les radios en langue étrangère. Au début de la nouvelle année, note sur la conception de l'information d'après écoute radiophonique. J'ai, en fin d'année, consulté plusieurs lecteurs sur la conception de l'information à laquelle je suis parvenu après des années d'écoute des radios internationales. Sauf deux personnes qui souhaiteraient des informations d'une utilisation plus immédiate, mes lecteurs considèrent que, dans l'ensemble, je devrais davantage encore à dégager dans mes propos entendus les éléments peu nombreux susceptibles de porter en germe l'avenir. Somme toute, selon eux et selon moi, l'écoute de l'immense planète verbale qu'est l'univers radiophonique permettrait la prévision logique des événements à une semaine et parfois à un mois ou plusieurs mois de distance. Cette prévision à distance, par la déduction logique, est surtout possible dans la mesure même où les radios sont propagandistiques. Ceci peut paraître paradoxal, mais nous avons constamment constaté que les exercices verbaux russes, qui en apparence ne fournissent guère de prise, permettent, par l'apparition d'une seule expression nouvelle, qui risque de passer inaperçue, de prévoir les tentatives et actions envisagées par Khrouchtchev. Par contre, voir nos bulletins de l'an dernier, maintes propos de K ne sont que des boutades qui n'ont pas leur correspondant dans les radios. Par contre, des radios telles que la Voix de l'Amérique, qui s'en tiennent généralement à la conception traditionnelle de l'information, ne permettent guère d'aller au-delà des textes mêmes. Il n'y a pas en elles ce que nous pourrions appeler l'insertion subreptice de l'avenir, dans les propos du moment. Note d'écoute intéressant la France. Cette analyse ne peut prétendre à être complète. De nombreuses attaques continuent en ce moment, encore contre l'explosion de la troisième bombe atomique française. Nous avons vu à la fin de l'an dernier que la BBC, sans prendre ou sans avoir l'air de prendre personnellement parti, notait avec un plaisir peu dissimulé le nombre des protestations émanant des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. La BBC a continué de façon moins insistante, mais en ne perdant pas une occasion d'insinuer que la France a en fait affaibli ses positions internationales, à commencer par sa position à l'ONU. Cette petite campagne par personne interposée de la BBC contre le troisième essai atomique français contraste avec le fait que la BBC s'abstient toujours continuellement, sauf rares exceptions, à s'abstenir de critiquer, voire de commenter la politique française en Algérie, voire, le cas échéant, la dernière heure. En ces deux premiers jours de 1961, j'ai retrouvé la campagne des radios du monde russe, y compris de Radio Moscou en tête, contre ce qu'elles appellent la politique algérienne de la France. Pas grand-chose à ajouter à nos remarques précédentes, mais nous avons à dégager des textes de la fin de 1960 et des textes du début de 1961 l'élément suivant. L'analyse minutieuse des textes conduit à la réflexion à observer que, malgré la présence de formules telles que « les troupes colonialistes françaises », etc., etc., ces radios se gardent malgré tout de pousser ce thème trop loin. La campagne contre le colonialisme et le néocolonialisme étant désormais conçue comme dirigée essentiellement contre les USA. Suite des attaques contre la bombe atomique française, qui est condamnée par l'opinion mondiale unanime, etc., etc. Mais là aussi, en réfléchissant de plus près à la tournure des textes, on finit par s'apercevoir du fait suivant. Tandis que les protestations venant de l'Occident ont parlé volontiers de la détérioration de la position française à l'ONU, les radios du monde communiste s'en tiennent à la formule générale « l'opinion publique mondiale ». C'est que l'URSS est en froid avec l'ONU. Et que, depuis les événements du Congo, la propagande russe accentue de jour en jour la tendance à présenter l'ONU comme l'instrument du néocolonialisme. Moscou annonce. Les acteurs du film Normandie-Niemen ont proposé de tourner un autre film franco-soviétique consacré à Marius Petpin, orthographe d'après le son, le fameux danseur français qui trouva une seconde patrie en Russie. Yougoslavie. Radio Belgrade. Diverses émissions diffusent en ce début d'année un bilan de la transformation de la Yougoslavie en pays industriel. Éloge de l'autogestion ouvrière. Les rubriques sportives m'ont paru avoir été renforcées et multipliées, même dans les services vers l'étranger. Absolument plus rien de politique dans le service en langue espagnole. En divers services, une discrète propagande sur le thème « l'autogestion ouvrière a créé de nouvelles relations humaines ». Chine. Ceci aurait pu à la rigueur trouver place dans notre dernier bulletin de 1960, 29 décembre 1960. C'est vers le 28 décembre 1960, en effet, que s'est mise à se répandre dans les radios occidentales des bruits de catastrophes agricoles en Chine communiste. Il est certain que, même d'après l'ensemble des radios de Pékin, la situation de l'agriculture chinoise n'est guère florissante. Et cela malgré les dépassements de plans, etc., etc., dans telle ou telle commune du peuple, et annoncé à grand fracas par les radios en question comme autant de preuves des progrès foudroyants de l'agriculture chinoise ultra-collectivisée. Nous n'aurions donc guère tenu compte de ces bruits de catastrophe de l'agriculture chinoise, bruits qui ont circulé périodiquement, si un fait n'avait fini par attirer notre attention. C'est la BBC, la plus réservée de toutes les radios, qui s'est faite la propagatrice la plus insistante de ces bruits, leur meilleure amplificatrice. Or, ce n'est pas dans ses habitudes, non plus que dans les habitudes du Times, cité à l'appui par la BBC. Quelles sont les sources? Il y a les bruits. Mais il y a aussi cette remarque de la BBC. Il suffit de lire entre les mots de Jiming Zheng Pao, quotidien du peuple, pour comprendre en gros l'ampleur du drame. Quant aux émissions des radios de Pékin, entendues en ce début, écoute fort difficile à cause des conditions atmosphériques, voire note à ce sujet au début de la page 5, elles s'occupent surtout de diffuser des vituperations contre les impérialistes américains, qui arment la Thaïlande et le Sud-Vietnam contre le paisible Pathet Laos, et veulent déclencher une agression contre le Laos. Il est bien inutile que j'encombre l'esprit de mon lecteur de propos injurieux et anathématiques déjà signalés ici plusieurs fois. Deux notes personnelles susceptibles d'éclairer les écoutes. 1. J'ai essayé de m'abonner à Paris à l'édition en chinois du quotidien du peuple. Je ne suis heurté aux plus subtiles difficultés et j'ai même appris que les agents de ce journal en Europe procèdent à une très discrète enquête pour décider si on peut vous admettre comme abonné. 2. L'inhumanité du système des communes du peuple est tellement pharaonesque qu'il est fort possible que ce système n'ait pas du tout été mis en place en vue de quoi que ce soit de la production agricole, mais en vue de l'armement atomique et thermonucléaire.
Vous pouvez maintenant fermer les volets, éteindre votre télévision, ranger votre livre illustré, car l'émission invisible s'achève. Aujourd'hui, vous avez entendu par ordre d'apparition Monica Zetterlund, Stella Cadente accompagnée par Bill Evans, puis Armando Trovajoli, Liv Bourges, Elia Batilda et Johan Chamorro, Marc Mercier et en ce moment même Alessandro Alessandroni. Cela a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous. Nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.